Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Seloudia, bonjour. Amnesty International a exhorté hier la junte au pouvoir au Tchad à arrêter la campagne d'intimidation contre les voix dissidentes et à protéger la liberté d'expression 2 jours après des manifestations dispersées par la police à coups de gaz lacrymogène. Ces rassemblements, à l'appel de Wakit Tama, une plateforme de partis d'opposition et de membres de la société civile qui réclament un pouvoir civil, avaient été interdits par les autorités, arguant de risques de troubles à l'ordre public. Mais plusieurs centaines de personnes étaient descendues dans les rues de la capitale N'Djamena. Selon la Convention tchadienne des droits de l'homme, 3 militants de Wakit Tama ont été placés en garde à vue ce lundi, notamment pour des faits de troubles à l'ordre public et destruction de biens publics. La Convention a condamné avec la dernière énergie ces gardes à vue, cette arrestation arbitraire, pour citer la Convention, et elle exige leur libération immédiate et sans condition. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a jeté hier de nouveaux doutes sur la tenue des scrutins présidentiels et législatifs à la date prévue du 27 février 2022, en rejetant ce qu'il a appelé les diktats des partenaires de son pays. M. Diop a laissé entendre que ces scrutins pourraient ne pas se tenir si la situation sécuritaire n'est pas prise en charge lors d'un point de presse avec son homologue marocain Nasser Bourita à Rabat. Nous avons un défi supplémentaire qui est venu avec le désengagement du partenaire français qui risque de créer un vide sécuritaire que l'État malien doit combler, a ajouté M. Diop, dans une allusion à la décision de Paris de réorganiser son dispositif militaire au Sahel. 2 soldats burkinabés en patrouille ont été tués lundi dans l'explosion d'un engin artisanal à Farakoroso, dans la région des Cascades, près de la frontière ivoirienne, a-t-on appris de sources sécuritaires. Les attaques avec des engins artisanaux se sont multipliées depuis 2018 au Burkina Faso, coûtant la vie à près de 300 personnes civiles et militaires, selon un décompte de l'AFP. Ces attaques sont souvent couplées à des embuscades. Des incidents hostiles ciblant des casques bleus et impliquant des forces de défense et de sécurité, ainsi que du personnel de sécurité déployé bilatéralement, se poursuivent en Centrafrique à un niveau inacceptable, dénonce le chef de l'ONU dans un rapport remis hier au Conseil de sécurité. Ce niveau est préoccupant, comme la persistance de campagnes de désinformation contre la mission onusienne MINUSCA, précise Antonio Guterres dans ce document obtenu par l'AFP et qui porte sur une période allant de juin à octobre. Quand M. Guterres parle de personnel de sécurité déployé bilatéralement, il fait allusion, même s'il ne les identifie pas, notamment à des membres du groupe de sécurité russe Wagner. Au début de l'été, des agissements de ce groupe contre des casques bleus avaient déjà été vivement dénoncés par l'ONU. Le laboratoire américain Merck a déposé une demande d'autorisation auprès des autorités américaines pour sa pilule contre le COVID-19, susceptible de constituer une avancée majeure en évitant en amont les forces graves de la maladie. La vaccination contre le COVID-19 réduit de 90% le risque d'hospitalisation et de mourir chez les plus de 50 ans et semble aussi efficace face au variant Delta, sur lequel on manque toutefois encore de recul selon une vaste étude française en vie réelle rendue publique lundi. Les dirigeants talibans qui ont rencontré pendant le week-end au Qatar des responsables américains vont s'entretenir ce mardi à Doha avec des responsables de l'Union européenne et encore des États-Unis, le nouveau régime afghan cherchant à rompre son isolement diplomatique. Le conseil d'administration du FMI a renouvelé hier sa pleine confiance en Kristalina Georgieva. La suite de nos informations, au Zimbabwe, le chef de l'opposition a été victime d'une attaque. Le convoi transportant Nelson Chamisa a été attaqué hier lundi par des partisans présumés du parti au pouvoir. Des membres de sa sécurité ont été blessés selon son parti Abdourahmandia.
Parole du mouvement pour le changement démocratique, MDC, a indiqué que M. Chamisa n'a pas été blessé, mais que ses agents de protection rapprochés et de sécurité ont été blessés et hospitalisés. Selon les MDC, M. Chamisa se rendait à une réunion avec des dirigeants communautaires dans le sud du pays lorsqu'une foule a barricadé les routes. Environ 200 villageois soupçonnés d'avoir été mobilisés par la ZANU-PF au pouvoir ont alors lancé des pierres sur le convoi. Cette violence politique est extrêmement préoccupante et constitue un acte de désespoir évident de la part d'un régime illégitime et en faillite qui a échoué, a ajouté le MDC dans un communiqué. Le porte-parole du gouvernement, Nick Mangwana, a pour sa part qualifié l'attaque de cinéma mise en scène. Les tensions politiques ont augmenté au Zimbabwe avant les élections générales prévues en 2023. M. Chamisa devrait s'opposer pour la seconde fois à l'actuel président Emmerson Mnangagwa. Le mois dernier, 19 personnes, dont 10 journalistes, ont été arrêtées lors d'une manifestation devant la commission électorale dans la capitale Harare.
En Libye, le Parlement a adopté hier une loi octroyant une aide d'environ 10 000 dollars à chaque famille libyenne, 2 mois après que le gouvernement rival à Tripoli a décidé d'octroyer un subside aux jeunes couples, alors que se profilent des élections en fin d'année. Jacques Aristide.
Vote à l'unanimité à la Chambre des représentants qui siège à Tobrouk en faveur de cette aide de 50 000 dinars par famille, soit environ 10 000 dollars, dans un pays qui compte quelque 7 millions d'âmes. La Chambre n'a toutefois pas fourni les raisons ayant motivé le projet de loi adopté, ni la date de son application. Elle n'a pas non plus précisé les modalités d'attribution de l'argent. Le vote intervient environ 2 mois après l'annonce du gouvernement de transition basé à Tripoli d'accorder une prime de mariage de 40 000 dinars, près de 8 000 dollars, à 25 000 couples célébrant leur union d'ici à la fin de l'année. Ces derniers ont d'ailleurs été exclus de l'allocation familiale adoptée hier par les députés. Le Parlement libyen, dirigé par Aguila Saleh, une figure politique de la région orientale de Cyrénaïque, et rival politique du Premier ministre intérimaire Abdelhamid Debeiba, un notable de l'Ouest. La Libye tente de s'extraire d'une crise politique majeure qui perdure depuis la chute de l'ancien régime en 2011, dirigé par Muammar Kadhafi.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dénoncé lundi des promesses non tenues par les talibans en Afghanistan à l'égard des femmes et des filles. Sur un autre plan, il a appelé le monde à injecter des liquidités dans ce pays pour éviter son effondrement économique. Le point avec Rosine Munezero.
Je suis particulièrement alarmée de voir les promesses faites aux femmes et aux filles afghanes par les talibans ne pas être respectées, a-t-il déclaré lors d'une rencontre avec des médias au siège de l'ONU. Nous ne lâcherons rien à cet égard, a souligné le responsable de l'ONU, en assurant que l'organisation parlait de ce sujet tous les jours avec les talibans au pouvoir en Afghanistan depuis la mi-août, mais à la légitimité internationale toujours non reconnue à ce jour. M. Guterres a également rappelé que depuis 2001, le temps moyen à l'école est passé de 6 à 10 ans, avertissant que sans les femmes, l'économie afghane, qui est à 80% informelle, n'a pas de chance de se rétablir. À ce propos, le chef de l'ONU a exhorté le monde à agir et à injecter des liquidités dans cette économie pour éviter un effondrement économique. La crise humanitaire et économique en Afghanistan touche au moins 18 millions de personnes, soit la moitié de la population. L'aide humanitaire internationale est jusqu'à présent acheminée dans différentes régions afghanes sans obstruction des talibans, voire même avec leur coopération et leur concours en matière de sécurité, a indiqué Antonio Guterres.
La Minute Éco, Nanit Talani.
En Guinée équatoriale, Malabo, la capitale, est confrontée depuis des jours à des pénuries de gaz domestique à cause d'un incendie qui a interrompu la production. des réserves de gaz présentes à Bata ont été transférées à Malabo, mais sans pouvoir faire face à la demande des habitants. Le retour à la normale n'est pas prévu avant le 20 octobre. La compagnie nationale Sonagaz assure travailler intensément pour la fourniture du gaz domestique à tous et au prix habituel. En Égypte, l'inflation des prix à la consommation est passée à 6,6% en septembre contre 5,7% en août. C'est son plus haut niveau en 20 mois, selon l'Agence nationale des statistiques. L'inflation s'explique principalement par la hausse des prix des légumes et de la viande. L'indice alimentaire est en hausse de 3,5% en glissement mensuel. Terminons par le FMI qui a approuvé un quatrième allègement de la dette qui s'élève à 124 millions de dollars au profit de 24 pays pauvres pour les aider à atténuer l'impact du COVID-19. Il couvre les paiements dus jusqu'au 20 janvier 2022 avec un possible prolongement au 13 avril. En Afrique, les pays bénéficiaires sont le Lesotho, le Bénin, le Burkina Faso, la RCA, le Tchad, les Comores, le Djibouti, l'Éthiopie, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Libéria, Madagascar, le Malawi, le Mali, le Mozambique, le Niger, le Rwanda, Sao Tomé et Principe et la Sierra Leone.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Suite et fin aujourd'hui des matchs de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, zone Afrique. Les Lions de l'Atlas du Maroc donc jouent leur match en retard contre la Guinée. Le Sénégal cherche une quatrième victoire consécutive dans ses éliminatoires face à la Namibie. Le Niger reçoit l'Algérie, le Congo, le Togo. Le Zimbabwe accueille le Ghana et l'Afrique du Sud offre l'hospitalité à l'Éthiopie. Hier, le Gabon a obtenu sa première victoire dans ses qualifications grâce à son succès 2-0. Lors de la réception de l'Angola, le Cameroun s'est imposé 1-0 devant le Mozambique et la Côte d'Ivoire a eu raison du Malawi 2-1. Les Ivoiriens conservent donc la tête du groupe D. Le Burkina Faso a battu Djibouti 2-0. L'Égypte a dominé la Libye 3-0. L'Allemagne est la première équipe à décrocher son billet pour ce mondial 2022 au Qatar via les qualifications en s'imposant 4-0 en Macédoine du Nord avec 8 points d'avance sur la Roumanie, victorieuse dans le même temps de l'Arménie 1-0. Les quadruples champions du monde ne peuvent plus être rejoints. La seule équipe qualifiée jusqu'ici était le Qatar, pays organisateur. Athlétisme, le Kenyan Benson Kipruto a remporté hier le marathon de Boston en 2h09 51 secondes pour la 125e édition de la course. Arrivé en solitaire, Kipruto a décroché à 30 ans sa première victoire sur un marathon majeur. Il a devancé les Éthiopiens Lemi Beranu et Jemel Yimeh. Chez les dames, la Kenyane Diana Shemtai Kipyogei s'est imposée en 2h24 45 secondes. Devant ses compatriotes Edna Kaplaga et Marie Ngugi. Le marathon de Boston n'a pas eu lieu depuis avril 2019, après une annulation en 2020, puis un report au printemps en raison de la pandémie de COVID-19. Basketball, Philadelphie et son entraîneur Doc Rivers sont en discussion avec l'agent de Ben Simmons pour un retour du joueur au sein de la franchise NBA, a annoncé ESPN. La star australienne devrait reprendre le dialogue avec la direction du club, ce qu'il n'a plus fait depuis la fin du mois d'août, affirme le média américain sur son site. Le meneur de 25 ans, arrivé à Philadelphie en 2016, a récemment demandé à quitter le club et a prévenu ses dirigeants qu'il ne se présenterait pas au stage d'entraînement de pré-saison, provoquant la colère de son coéquipier, le Camerounais Joel Embiid. La situation est décevante, c'est à la limite un manque de respect pour tous les gars qui se battent dans l'équipe comme si leur vie en dépendait, a réagi le Camerounais fin septembre.
Merci Yacouba. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique en votre compagnie, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, le procès attendu de l'assassinat de Thomas Sankara a été renvoyé au 25 octobre après une brève audience inaugurale. Les avocats de la défense ont demandé du temps pour prendre connaissance du dossier. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Il faudra attendre le 25 octobre prochain pour voir le début effectif de ce procès sur l'assassinat de Thomas Sankara. Certains avocats de la défense veulent prendre connaissance des 20 000 pages que constitue ce dossier. Et cela n'a rien de dilatoire. Maître Moumouni Kopio est un avocat de la défense.
Ce n'est pas dilatoire, c'est le droit de la défense. On a des confrères qui viennent de prendre le dossier. Vous avez dit 20 000 pages. Vous pouvez travailler sur 20 000 pages, lire 20 000 pages en deux semaines. Ça n'a rien de dilatoire.
Les avocats de la partie civile n'ont fait aucune objection. Maître Ambroise Farama est avocat de la partie civile.
Non, ce n'est pas du dilatoire. Je pense que la demande des conseils et des prévenus en visant à obtenir un délai raisonnable pour examiner les pièces du dossier est une demande qui nous paraissait être fondée dans son principe. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en tant que conseil de la partie civile, nous n'avons pas formulé donc d'objection particulière. Ils ont demandé un mois, le tribunal leur a accordé deux semaines. Nous estimons que c'est un délai raisonnable.
La veuve de Thomas Sankara était dans la salle. Elle a assisté à cette première journée d'audience. Elle pense aussi que les avocats ont besoin de temps pour connaître le dossier.
C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ça, mais je pense que c'est normal. Si des avocats disent qu'ils viennent de recevoir les dossiers qui ne sont pas prêts, c'est normal qu'on leur donne du temps de se préparer. Je n'ose pas croire que c'est dilatoire. Pour moi, je me dis qu'ils veulent sincèrement se préparer. Le 25 octobre, on sera là.
Autre fait marquant de cette première journée, les avocats des parties civiles ont formulé la requête de pouvoir enregistrer le procès et ou diffuser. La défense s'est farouchement opposée. Le tribunal a finalement rejeté la requête. Toujours Maître Kopio de la défense.
Classiquement, on n'enregistre pas le procès. Et je pense que ce procès est un procès ordinaire et classique. Même si la cause ici est emblématique. Il s'agit de l'assassinat quand même du président Thomas Sankara, mais ce n'est pas une raison pour que la justice soit extrapolée sans qu'il y ait des textes qui viennent réviser cela.
Mais c'est bien dommage qu'on ne puisse pas enregistrer ou diffuser ce procès selon les organisations de la société civile. Sam Skaludia est l'un des militants.
Pour l'histoire, Sankara, c'est pas n'importe qui. C'est l'un des rares présidents sur qui il y a eu beaucoup de films documentaires. Il y a eu beaucoup d'œuvres littéraires. Des gens ont écrit sur Sankara. Et que le Burkina aujourd'hui ne peut pas enregistrer le procès Thomas Sankara, imaginez-vous ce que ça fait, quoi. Moi, je ne sais pas. On se retrouve à quelle époque de notre histoire. Moi, je trouve que c'est vraiment dommage qu'on n'enregistre pas ce procès.
Cette première journée a essentiellement été des questions de procédure, notamment la constitution même du tribunal. 6 juges assesseurs militaires, dont 3 titulaires et 3 suppléants, ont prêté serment. Sur les 14 accusés, 12 étaient présents, dont le général Gilbert Diendéré. L'ancien président Blaise Compaoré et Yacine Kafando manquaient à l'appel. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Mandia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le procès Sankara, 34 ans après son assassinat. Ouvert lundi, avant d'être renvoyé au 25 octobre, il se déroule avec 12 des 14 accusés, avec l'absence remarquée de l'ex-président Blaise Compaoré, qui vit en Côte d'Ivoire, et Hyacinthe Kafondo, soupçonné d'avoir été à la tête du commando qui a tué Thomas Sankara en 1987. Quelle est l'importance du procès Sankara, plus de 3 décennies après sa mort? Que reste-t-il du projet et de l'idéologie de Sankara? Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA et VOA.com.
Au Mali, la région de Ségou, dans le centre du pays, à moins de 240 km de Bamako, fait de plus en plus l'objet d'activités djihadistes. Des groupes armés y opèrent, poussant des milliers de personnes à fuir pour se réfugier ailleurs. Ces exactions commises sur les populations suscitent l'inquiétude de celles-ci. Pour en savoir plus, Abdourahman Dia a joint sur place Djeni Albert Calambré, rédacteur en chef de Radio Foco.
Effectivement, depuis un certain temps, il y a des mouvements, des groupes djihadistes dans la région de Ségou. Alors, plus précisément, en allant vers Massina, la zone de Massina. Et pas plus tard qu'en fin de la semaine dernière, dans le cercle de Nyono, plus précisément, les villages de Sibi, Bouyagiwara et Mariko, qui se trouvent dans la commune de Molodo, dans le cercle de Nyono. Alors, ces villages ont reçu la visite des groupes djihadistes qui les ont sommés à quitter les villages.
Alors, on nous signale des mouvements de population, des populations qui quittent Ségou pour se réfugier ailleurs. Où est-ce que ces populations trouvent refuge?
Tout à fait. Comme je viens de le signaler, il y a beaucoup de villageois qui sont vraiment en train de quitter les villages. Alors, ce n'est pas sans conséquence parce que ça vient augmenter le nombre de déplacés internes qui se trouvent à Ségou. Même si c'est parmi ces déplacés, il y en a qui ont trouvé refuge à Markala. Markala qui est à 35 km de Ségou et dans la ville de Nyono aussi, d'autres se sont installés là-bas et beaucoup se sont installés dans des autres villages environnants. Donc c'est vraiment un problème parce que les déplacés internes qui sont dans ces zones-là ne sont pas dans des bonnes conditions. S'il faut que d'autres viennent s'ajouter, c'est vraiment difficile.
Alors on sait que Ségou est à environ 240 km de Bamako. Est-ce que cette insécurité à Ségou cause une certaine psychose et où est l'armée dans tout cela?
Au niveau de la population, ça crée vraiment de la psychose parce que quand ces personnes vont se déplacer, ils viennent trouver refuge à Nyono. Alors nous savons que Nyono aussi est vraiment miné par le mouvement des groupes armés, ce qui terrorise vraiment les populations. En plus de ça aussi, effectivement, Ségou est à 235 km de Bamako, mais à Ségou ici, il y a un camp militaire. À Markala, 35 km de Ségou, il y a un camp militaire aussi. Mais comme je l'ai évoqué tantôt, les militaires, ils mènent des patrouilles souvent dans des coins un peu reculés, mais vers ces zones-là, c'est vraiment rare de voir l'armée patrouiller dans ces zones-là.
C'était notre confrère Jenny Albert Calambri, joint à Ségou.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au moins 3600 militants de Boko Haram ont déposé les armes depuis le mois d'août. C'est ce qu'a fait savoir dimanche à Yaoundé le commandant de la force multinationale luttant contre ce groupe extrémiste. Reportage du correspondant de la VOA à Yaoundé, Moki Edwin Kinzeka, récit de Lionel Gahima.
En visite dans la capitale camerounaise, le général nigérian Abdul Khalifa Ibrahim a assuré que le nombre de militants quittant les rangs de Boko Haram s'accroît de jour en jour.
Je peux vous dire avec autorité que depuis le début du mois d'août, environ 3000 membres de Boko Haram se sont rendus. Ceci uniquement à la force multinationale mixte au Cameroun et au Nigeria.
Le général Ibrahim précise que 6000 autres militants du groupe se sont rendus à la force multinationale ces deux derniers mois. Des milliers de défections ont été signalées en mai lorsque les affrontements ont éclaté entre les factions du groupe extrémiste nigérian suite à la mort de son chef Aboubakar Shekau. La force multinationale, dont le siège est N'Djamena, se compose de plus de 10 000 soldats originaires du Niger, du Cameroun, du Tchad et du Nigeria. Elle n'a cessé de mener des raids contre Boko Haram dans la forêt de Sambisa, ainsi que sur le pourtour du lac Tchad, semant la confusion dans les rangs des extrémistes. Ces derniers n'ont pas encore réagi comme ils le font habituellement sur les réseaux sociaux. Le général Ibrahim a pris part à Yaoundé à une réunion des responsables de la commission du bassin du lac Tchad, organisation regroupant le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Nigeria. Le consensus lors de cette réunion est que l'affaiblissement de Boko Haram a permis à des milliers de réfugiés et de déplacés de retourner chez eux. Mijiyawa Bakari, gouverneur de la province camerounaise de l'extrême nord, affirme que les réfugiés nigérians désireux de regagner leur pays ont reçu une assistance.
We have already accompanied more than 5,000 Nigerians.
Nous avons déjà accompagné plus de 5000 Nigérians qui sont retournés dans l'état de Borno et le chef de l'État a fourni à chaque réfugié un kit pour lui permettre de reprendre sa vie une fois réinstallé dans son pays.
En septembre, plus de 1200 anciens militants de Boko Haram qui avaient quitté le groupe pour le Tchad et le Cameroun ont regagné le Nigeria. Mahamat Fadoul Makai dirige la région tchadienne du lac Tchad.
Le gouvernement est parti en régression. Mais maintenant, je crois qu'avec le soutien des différents bailleurs, les partenaires qui nous accompagnent, il y a un déclenchement pour le développement, un échec cuisant. Et c'est maintenant qu'ils ont changé de stratégie et se sont répartis en petits groupes. Oui, ils s'en prennent à la population civile. Mais ils n'ont jamais eu l'audace d'attaquer les forces régulières.
Toutefois, les militants continuent d'attaquer les villages pour se procurer de vivres, a fait savoir le gouverneur Makai. Les défections djihadistes ne signifient pas pour autant la fin de la menace. Les pays du bassin du lac Tchad font état d'une infiltration dans les zones frontalières entre le Cameroun, le Nigeria et le Tchad du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, faction dissidente de Boko Haram. Selon les autorités camerounaises, le groupe tente de persuader les civils, en particulier les jeunes, à rejoindre ses rangs.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Au Sénégal, les 6 langues nationales du pays sont désormais disponibles en braille, et ce depuis la signature d'un décret le 9 septembre dernier. C'est notamment grâce à Youssoufa Faye, le père de ce programme d'adaptation. Enseignant non-voyant à la retraite, c'est lui qui a adapté la technique braille aux langues nationales dès les années 80 afin de permettre au plus grand nombre d'avoir accès à ce système d'écriture. En collaboration avec Mbainir, Alison Lekogo Fernandez fait le point.
Un cours de Braille Wolof. Nous sommes dans la ville de Thiès, dans les locaux du Mouvement pour le Progrès Social des Aveugles du Sénégal. Cette association dispense des cours d'alphabétisation aux malvoyants. Le Braille, ce système d'écriture inventé à la fin des années 1820 en France, ne s'est popularisé que des décennies plus tard au Sénégal. Youssoufa Faye a longtemps cherché à l'apprendre. Alors adolescent, il perd la vue. Pour lui, son salut passera par le braille. Mais ce n'est que 10 ans plus tard, au milieu des années 70, qu'il a l'opportunité d'apprendre cette technique grâce à une ONG.
Mes amis me taquinaient, ton braille-là, il ne viendra jamais ici. Fais tout pour aller en France, parce que tu ne le verras jamais au Sénégal. C'est un condisciple, un ami. Il m'a dit que ton braille-là est venu. J'étais tellement avide de connaissances que pendant une semaine déjà, je connaissais de A à W.
En quelques années, Youssoufa Faye accomplit son rêve professionnel, devenir enseignant. Et il ne s'arrête pas là. Dans les années 80, il transcrit le Wolof, le Poular, le Sérère, le Diola, le Soninké et le Mandinka en braille afin que les personnes qui ne parlent pas français puissent avoir accès à cette technique. Un projet qui vient tout juste d'obtenir une reconnaissance juridique avec la signature d'un décret. Ancien collègue de Youssoufa, Abdou Sek l'a vu porter ce projet à bout de bras pendant plus de 40 ans. Il estime qu'il contribue à l'émancipation des personnes déficientes visuellement.
Ça permet à cette cible aveugle de sortir de l'ornière. À cette cible aveugle, en tout cas, de s'émanciper congélée des toiles. Imaginez que ça soit, en tout cas, élargi à la sous-région. Ça va venir en aide à combien de personnes?
Le handicap n'a jamais empêché Youssoufa Faye d'être un fervent militant pour les droits des personnes handicapées, ni d'avoir une vie de famille bien remplie. Marié depuis 36 ans, il est père de 7 enfants.
Moi, mon seul problème, c'était de recouvrer la capacité de lire et d'écrire. Puisque le braille me l'a donné, je n'ai jamais souffert de ma santé. Jamais. Jamais. Au contraire, ma société m'a élevé. Mais ma société ne m'a pas retardé.
Âgé de 69 ans, Youssoufa Faye est aujourd'hui à la retraite, mais il a encore des projets plein la tête. Parmi eux, l'adaptation du braille à toutes les langues nationales parlées au Sénégal, qui sont au nombre de 22. Alison Ekogo Fernandez pour VOA Afrique, Dakar.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h CU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou. Politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebuya et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.